dernière fois en ce qui concerne Satan et les anges. À travers, en regardant Satan, on est en train de voir en même temps différents aspects de la doctrine des anges. Et puis, la dernière fois, on s'était laissé avec plusieurs questions en ce qui concerne la chronologie. Et puis, je voulais revenir juste pour établir certains éléments chronologiques ou sans pouvoir dire voici exactement le moment dans l'année où ce que ça s'est produit. Mais on a des événements que je pense qu'on est capable de placer en ordre, même si on n'a pas nécessairement la distance de temps, si je peux dire ça comme ça. Fait que j'aimerais juste revoir rapidement la chronologie, puis après ça, on va continuer d'avancer en ce qui concerne le diable. Alors, je vais prier pour que Dieu nous conduise dans sa parole, et on va ouvrir les Écritures ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer premièrement, parce que c'est toi notre Dieu. C'est toi notre Sauveur, notre Créateur. C'est toi notre Papa. Seigneur, ce soir, en ouvrant ta parole, même si on veut apprendre à connaître notre ennemi, ultimement, c'est toujours toi qu'on veut connaître. C'est toujours toi, de toi qu'on veut se rapprocher. C'est toujours pour être de meilleurs serviteurs, de meilleurs enfants, et que tu aies toujours accès à nos cœurs, à nos vies, pour nous transformer, pour nous conduire, Seigneur. On veut disposer nos cœurs et nos vies tout entières à ta personne. Et de l'autre côté, on veut que notre intelligence soit éveillée, on veut veiller, on veut avoir de l'intelligence selon ce que tu nous enseignes pour connaître notre ennemi, qui est le diable. Et je te prie que tu puisses nous enseigner ce soir, Seigneur, par ta parole. C'est dans ton fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. On avait déjà vu le texte, je vous invite à reculer avec moi, parce que j'étais dans le Nouveau Testament. Reculez, allez avec moi dans Job 38, s'il vous plaît. Dans l'ordre chronologique, il y a la création d'un monde physique. On parlait qu'il y avait un monde spirituel, un monde physique. Et à quel moment ces deux mondes-là sont apparus? Le monde physique, c'est clair, c'est là où Jésus, où Dieu, la parole a sorti des ténèbres et a commencé à mettre de l'ordre dans ce qui était chaotique, dans ce qui était en train d'être établi. Et sur la parole de Dieu, les choses sont apparues et le monde physique est apparu aussi. Mais en ce qui concerne le monde spirituel, on n'a pas beaucoup d'éléments dans les Écritures à savoir quand est-ce qu'il est apparu, quand est-ce qu'il a été créé. Et sur ce silence-là, on ne va pas nécessairement dire plus que ce que les Écritures nous disent. Mis à part le fait qu'on est capable de comprendre, par exemple, à travers Job 38, je vais lire les trois premiers versets, mais c'est surtout à partir du verset 4, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint Érin, vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? » On est vraiment au point où Dieu demande à Job, au moment où j'ai fondé le monde physique, où j'ai fondé la terre, t'étais où? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors Dieu est en train de demander à Job, t'étais où quand j'ai créé tout le monde physique, tout le monde qui, en six jours, j'ai tout créé. T'étais où pendant ce temps-là? Et verset 7, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Il était où, Job, quand que Dieu créait l'univers? Il n'était pas là. Mais qui était là? Les anges. Dieu, évidemment, Dieu était là. Mais les anges étaient là. Verset 7 nous dit, « Alors que les étoiles du matin, on parle des anges, éclataient en chants d'allégresse, que tous les fils de Dieu, encore là, c'est une autre expression, on parle des anges, poussaient des cris de joie. » Alors, le monde, les anges et leur monde est apparu avant le moment où Dieu a posé le cordeau, où Dieu a établi les cieux et la terre de notre monde physique. Alors, premièrement, dans l'ordre chronologique, on peut comprendre que les anges étaient là pour voir ce que Dieu est en train de créer de notre monde. Alors, ils sont apparus avant. Et Dieu a créé notre monde physique. Et juste un petit mot aussi qui, je crois, nous donne encore peut-être un autre élément chronologique. On parlait de la chute des anges. À quel moment la chute des anges est apparue? Avant la création du monde terrestre ou après? J'aimerais vous suggérer que c'est après que Dieu a créé la terre et le ciel et tout ce qui comporte qu'il y a eu la chute des anges. Parce que ça dit, au verset 7 qu'on vient de lire, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu éclataient en chants d'allégresse. » Unanimement, alors c'est intéressant, tout le monde, tous les anges que Dieu a créés unanimement, mais étaient là et éclataient en chants d'allégresse. Alors, il semble pas y avoir eu de division encore à ce moment-là au sein des anges entre le bien et le mal, et que tous les anges, au moment que Dieu a créé notre monde, éclataient en chants d'allégresse. Et alors, les anges ont été créés avant notre monde. Notre monde a été créé ensuite. Et la chute des anges semble avoir arrivé après la création en 6 jours, et même le 7e jour où il y a eu le repos, il y a eu la chute des anges. Maintenant, là où on n'a pas de journées qui nous sont données, c'est après le 7e jour. Entre le 8e jour, si je peux dire, puis Satan qui est dans l'arbre, la connaissance du bien et du mal, il s'est passé combien de temps? Là, on ne le sait pas. Il peut s'être passé des semaines, des mois. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire à des années, parce que j'aurais tendance à penser que les enfants d'Adam et Ève seraient arrivés avant 50 ans d'existence, tout seuls dans le jardin, les deux. Mais je n'ai pas de notion de temps spécifique, mais ça peut être des semaines, des mois, peut-être plusieurs mois. Bref, dans Ézéchiel 28, je vous invite à retourner, c'est un texte qu'on avait déjà vu aussi, juste pour conclure cet aspect chronologique. Ézéchiel 28. On avait déjà lu ce texte-là, mais je veux juste attirer votre attention encore sur quelques mots. On parle de la chute de Satan. Mais avant la chute de Satan, il était où, Satan? Il était au service de Dieu. Il faisait partie du monde spirituel des anges avant la création de l'homme. Mais une fois que Dieu a créé l'homme, il semble que Dieu a confié des rôles aux anges à l'égard des humains. Et là, par exemple, verset 12, « Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Et je vous suggérais que, à travers cette prophétie-là, on parle de Satan. « Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Et là, regardez verset 13, « Tu étais en Éden. » Et ça semble être la présence de Lucifer avant la chute. En Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées et je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au verset 13, on a cette déclaration-là où Lucifer, je l'appelle comme ça avant sa chute, ou ce qu'on va l'appeler Satan, ben il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Alors, à partir du 8e jour, jusqu'au moment de la chute, il semble que Lucifer était en Éden, avait accès au jardin de Dieu, et qu'à un moment donné, dans cette période-là, Satan... l'orgueil a été trouvé en son cœur. Verset, là, on arrive au verset, par exemple, 16 et 17, etc., où Satan a décidé de se rebeller contre Dieu. Alors, je voulais juste revenir sur la chronologie où, selon ce qu'on voit, du moins avec les quelques détails qu'on trouve dans les Écritures, Dieu aurait créé le monde des anges, créé notre monde. Après ça, il y aurait eu la chute des anges. Et les anges, par Satan, qui était le tentateur, ont amené l'humanité aussi, à travers Adam et Ève, à chuter. Michel, tu avais une question? Un commentaire? Oui. La chute des anges, c'est le moment où Satan s'est dit dans son propre cœur, je pourrais être plus grand que Dieu, je pourrais prendre son trône, et que là, la façon que je l'imagine, que Dieu a dit à tous les fils de Dieu, à tous les anges, faites un choix. Aujourd'hui, vous êtes avec moi ou vous êtes avec Satan. Et là, Satan, un autre texte nous dit qu'il a amené avec lui le tiers des anges, dans un sens, avec lui, à se rebeller contre Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la chute des, ce que j'appelle la chute des anges. Ils sont devenus des démons. Alors, je voulais juste fermer la boucle en ce qui concerne la chronologie, puisque la dernière fois, on s'était laissé peut-être avec un peu de brouillard. Et puis, une chose est sûre, c'est que Satan était le tentateur dans le jardin, dans l'arbre. Et quand il a conduit Adam et Ève à pécher contre Dieu, ben il... La chute des anges avait déjà eu lieu à ce moment-là. Et regardez avec moi dans Apocalypse 12, 9. Satan était de chérubin protecteur et adversaire de Dieu. Satan a entraîné avec lui des anges dans sa chute. Satan est, de par le fait même, devenu le chef des anges. Et la déclaration que je vais faire et qu'on s'apprête à lire semble évidente, mais je veux quand même prendre le temps de faire le lien, bien qu'il peut être évident. Mais Satan est le serpent ancien dans la Genèse. Jusque dans l'Apocalypse, Satan est toujours ce même personnage-là qui cherche à éloigner l'humanité de Dieu. Apocalypse 12, 9 nous dit, et il fut, je vais lire à partir du verset 7, « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » On voit vraiment qu'il y a une guerre entre Michel et ses anges, qui sont avec Dieu, et Satan et ses anges. Et les deux se sont combattus, verset 8, « Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel en ce qui concerne les démons. » Et là, verset 9, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Le serpent ancien de Genèse, c'est ce même serpent, ce même personnage qui est Satan, qui se retrouve jusqu'à la fin des temps, qui sera enchaîné pendant 1000 ans, puis après ça, jeté aussi dans les temps de feu. Alors, Satan est le serpent ancien. Maintenant, ce matin, Benjamin, il parlait des noms. Il parlait, par exemple, de Jacob ou Israël, puis comment est-ce que les noms révèlent plus que juste... une identité, mais révèle même, particulièrement dans l'Ancien Testament, et des noms de certains personnages, même le caractère du personnage. Et dans le cas de Satan, c'est encore plus palpable, si je peux dire ça comme ça. Et il y a trois noms principaux que j'ai juste relevé. Astre brillant, qu'on avait vu dans Ésaïe, que je vous ai parlé, qui a été traduit de l'hébreu au grec par Lucifer, et Satan, qui se retrouve à plus de 50 fois dans la Bible, qui vient de l'hébreu et qui veut dire « adversaire » ou « ennemi », c'est ce que Satan veut dire, et « diable », qui se retrouve dans le Nouveau Testament, plus de 30 fois, qui vient du grec, qui veut dire « calomniateur » ou « accusateur ». Après ça, je vais vous poser une question, mais je vais vous faire une énumération de différents noms qui nous sont donnés. La question que je vais vous poser, c'est comment les noms suivants expriment-ils le caractère de Satan? Qu'est-ce que vous apprenez de notre ennemi? Qu'est-ce qu'on apprend de notre ennemi? Qu'est-ce que les Écritures nous révèlent à travers ces noms? Et juste vous en énumérer quelques-uns. Après ça, je vous laisse répondre. Je viens d'en nommer trois. mais il y en a une quarantaine d'autres facilement qu'on peut ajouter qui sont attribués à Satan. Par exemple, Abaddon, là ça vous dit peut-être pas grand-chose, hein, qui est un nom hébreu qui signifie perdition. Il y a Apollyon aussi qui se trouve dans l'Apocalypse, qui est un nom grec qui signifie destructeur. Ensuite de cela, il y a accusateur, adversaire ou ennemi, ange de l'abîme, Bélial, Belzébul, le diable, le dieu de ce siècle, meurtrier, prince des démons, prince de la puissance de l'air, prince du monde, dominateur des ténèbres, le serpent, le tentateur, l'esprit impur, le malin, le père du mensonge, et etc. Qu'est-ce que ces noms-là nous apprennent sur notre ennemi? Qu'est-ce que ça révèle de notre ennemi? Il est pas fin. Comment? C'est un méchant? Non. On est mieux de pas troquer avec lui. Effectivement. Qu'est-ce que ça révèle de notre ennemi? Tous ces noms-là, que ce soit le prince de ce monde, le dominateur des ténèbres, le tentateur, le père du mensonge, Julie. Il est puissant. Effectivement. Il est puissant. Comment? Il y a plusieurs armes, il y a plusieurs moyens d'action et d'influence sur le monde. J'ai manqué, Renard, qu'est-ce que tu as dit? Il est puissant, mais pour le mal, tous les noms ont une connotation négative qui lui sont donnés. J'ai vu une autre main levée. Oui, après ça. Oui. Oui. C'est ça. Son nom est caractérisé par le péché. Je vais parler dans quelques instants de l'activité du diable et de son activité qui se rétrécit de plus en plus, ou sa sphère d'activité, si je peux dire. Est-ce que ça va répondre? Ça va rejoindre ça, je pense. Puis si à la fin de cette section-là, ça n'a pas répondu, tu me reposeras la question. Tous ces noms-là révèlent ce que Satan est et devraient allumer à notre compréhension sa puissance, ses multiples armes, ses intentions ténébreuses. Il n'a jamais de bonnes intentions. Il n'a jamais de bonnes ressources pour nous. Il n'a jamais de bons recours pour nous. Mais comment ça se fait que l'humanité se fait tromper par Satan? Malgré ça, oui, Bertrand? Oui? Oui? Oui, c'est ça, absolument. Dieu, il nous montre clairement c'est qui notre ennemi. Mais comme tu dis, il est beaucoup plus intelligent que ça. Il ne va pas se présenter comme ça. Oui, Céline? Oui? C'est ça? C'est ça? Il va se déguiser. Alors, l'humanité va être tentée, va être intéressée par ce que Satan offre. Et il va se présenter comme un ange de lumière. Et il va se présenter très peu rarement, j'imagine, comme ce que nous autres, des fois, on pourrait le dessiner avec deux cornes puis un tripode. L'impression que Satan peut paraître bien plus beau que ça et bien plus intéressant. Et le monde est contrôlé par lui. Et même plusieurs chrétiens sont séduits même aussi par Satan si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas attention à ses manipulations. Mais Dieu nous révèle dans sa parole, à travers tous ces noms-là, qui il est réellement. Il nous montre réellement la vraie face de Satan. Au moment de la création, si on parle de l'activité de Satan, à partir du début jusqu'à la fin, Satan est en train de se peinturer dans le coin. Vous comprenez l'expression? C'est-à-dire que au début, il semble avoir beaucoup d'espace. Mais plus le temps avance, plus il recule, puis plus il est pris dans le coin. Et plus Satan est pris dans le coin, quelle est sa réaction? Il se débat. C'est quoi qui fait un boxeur quand il est pris d'un câble dans le coin? il se débat, il se tasse, il se défend, puis il peut devenir encore plus agressif et encore plus en colère. C'est ce que Satan va faire et c'est ce que les Écritures nous révèlent aussi. Alors, Satan est en train de se peinturer dans le coin et plus l'étau se resserre, plus sa colère est grande et plus son influence négative sur la Terre est présente aussi. Oui, Pauline? Ouais. C'est ça. OK. Alors, au moment de la création, ben la sphère d'activité de Lucifer est dans la présence de Dieu au ciel, dans le jardin d'Éden et sur la terre. Alors, Lucifer, à ce moment-là, avait accès à tous les domaines, à toutes les portes, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. Lucifer avait accès à tout. Mais après son péché, par exemple, qu'est-ce qui s'est produit si on est dans l'Ancien Testament? Tournez avec moi dans Job. Vous connaissez bien déjà le texte. On va juste regarder deux versets. Job 1. Les versets 6 et 7, quelqu'un qui voudrait lire? OK, Daniel. OK, au temps de Job, quelle était la sphère d'activité que Satan avait à ce moment-là? Il se promenait sur la terre et suffisamment proche et suffisamment présent auprès de Job pour voir tout ce qu'il faisait. Et il avait accès au ciel aussi. Et qu'est-ce qu'il fait avec Dieu au ciel, Satan? Il l'accuse. Il est accusateur. Alors, ouais, mais regarde, là, si tu fais ça, et là, Satan semble avoir un accès auprès de Dieu, semble avoir un accès au trône de Dieu pour dire, ben, regarde, là, ton serviteur Job, enlève-y finalement sa santé, et puis enlève-y tout ce qu'il a, puis il va te maudire, il ne voudra plus rien savoir de toi. Et là, il l'accuse et il cherche à prendre Job au piège. À ce moment-là, Satan, dans toute cette période-là, où Christ n'est pas encore venu, ou le paiement, si je peux dire, en ce qui concerne le péché qui nous... l'accusation qui est effacée, elle n'était pas encore présente à ce moment-là, au temps de Job. Les fidèles étaient accusés. Tournez avec moi, on est déjà dans l'Ancien Testament, là, on pourrait aller voir rapidement dans Zacharie 3. Zacharie 3, par exemple, juste le verset 1 qu'on pourrait regarder. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour faire quoi? Pour l'accuser. Alors, Satan est là, semble être présent, et c'est l'accusateur. Même dans le ciel et auprès de Dieu, et il accuse les pécheurs, même ceux qui sont fidèles à Dieu. Il les accuse et se tient là pour accuser. Alors, la sphère d'activité, à partir du péché de Satan, dans l'Ancien Testament, était auprès de Dieu, comme sur la terre, et il a un rôle d'accusateur et cherche à diminuer encore l'œuvre de Dieu et la présence de Dieu. Maintenant, pendant le ministère de Jésus, comment voyez-vous la sphère d'activité de Satan et de ses démons? Est-ce que vous connaissez des évangiles? Comment Satan agit sur la terre, à votre avis, de ce que vous comprenez? OK, il y a des gens qui sont possédés par des démons. Quoi d'autre? Alors, il a cherché à tenter Jésus. Pour quelle raison? Pour le détourner de la croix? Pour le faire pécher? Si Satan était capable de faire pécher Jésus, ben c'était dans la poche pour lui. Si Jésus avait péché, Parce que si Jésus avait péché, le deuxième Adam aurait été pareil comme au premier, finalement. Mais c'est pas le cas. Il y a eu un premier Adam qui, lui, a péché, mais le deuxième Adam n'a pas péché. Alors, Satan a cherché à faire pécher Jésus. Comment voyez-vous aussi d'autres éléments qui vous viennent en tête? Comment voyez-vous Satan et ses anges, ses démons, dans l'œuvre sur la terre pendant le ministère de Jésus? Sonia, après ça, je l'ai. Oui. Oui. Alors, par exemple, Pierre avait des propos, on pourrait même dire sataniques, qui ne rejoignaient pas du tout le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Même Pierre était tenté par ce type de détournement-là du plan de Dieu. Julie? Oui. Oui. Il a pensé. Satan pensait que ça venait de son propre chef. Puis Dieu était au contrôle de tout ça derrière ça. Oui, Jacinthe. Tournez pendant qu'on écoute Jacinthe. Tournez dans Luc 22, s'il vous plaît. Oui. 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 Il semble avoir effectivement ce double sentiment de la part des démons et de Satan qui, fort probablement que Satan voyait que c'était le moment ou jamais, dans tout le plan, dans toute la ligne du temps, où il pouvait essayer de prendre Jésus au piège et puis s'attaquer à lui. Et de l'autre côté, on voit les démons effectivement qui ont peur de Jésus. Parce que Jésus a l'autorité de faire quoi? Ouais, de faire taire les démons, puis va-t'en dans l'abîme. Oui, c'est ça. Les démons ont peur de Dieu. Et quand, au moment de la chute des anges qui se sont rebellés contre Dieu, il y en a une partie de ces anges-là qui ont été déjà enchaînés dans l'abîme. Et puis, il y en a d'autres qui sont libres encore. Mais Jésus a cette autorité-là pour les envoyer et puis s'en débarrasser. Effectivement, on voit ces démons qu'on appelle légions, qui, eux, préfèrent aller dans les pourceaux et puis être encore libres pendant un temps. Et puis, dans Luc 22, regardez, un volontaire qui voudrait lire les versets 1 à 6, s'il vous plaît. OK, c'est ça. OK, c'est quoi que Satan a fait? On connaît déjà l'histoire. Mais c'est quoi que Satan a fait? Il a possédé Judas. Puis dans quelle intention? Ben d'aller vendre Jésus. Et puis pour qu'il soit pris. Et puis que tout le processus, finalement, qui allait avoir du procès de Jésus, on croit que cette heure qui se produisait était à la... Regardez verset 53. Toujours dans le chapitre 22. J'étais tous les jours, Jésus répondit aux gens qui viennent le chercher, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il semble y avoir un temps de grandes ténèbres, si je peux dire, sur le cœur humain, alimenté par Satan qui allait... posséder Judas, vendre Jésus et les principaux sacrificateurs et tout le procès où il y a eu plein de mensonges dits à l'égard de Jésus, c'était l'œuvre du Père du mensonge. C'était l'œuvre de Satan. Et est-ce que Satan comprenait qu'avec la mort de Jésus, qu'il allait perdre? Je ne suis pas convaincu qu'il comprenait ça. Les apôtres avaient de la misère à comprendre ça aussi. Je suis convaincu que Satan n'avait pas tout pigé ce qui allait se passer. Que en Jésus, en livrant son corps, en faisant couler son sang, qu'il allait pardonner l'humanité, qu'il allait devenir le sacrifice expiatoire pour toute l'humanité, c'était le mystère de tout temps qui se révélait à ce moment-là. Puis Hébreux 2.14, de la même façon qu'on participe, que toute l'humanité participe au sein et à la chair, Jésus y a participé aussi en anéantissant, là je vais dire un petit peu... c'est pas exactement ça le mot, là, mais c'est ça l'idée quand même, là. Hébreux 2.14, je vais vous lire rapidement, là, je suis en train de faire une citation libre. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également, parlant de Jésus, participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'était quoi la puissance du diable? C'était la mort. Puis probablement qu'il s'imaginait, en conduisant Jésus à la mort, qu'il allait avoir la puissance sur lui, mais il ne s'attendait pas que ça allait retourner contre lui, et qu'il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort par sa propre mort. Parce qu'il était sans péché. Alors, la sphère d'activité de Satan a grandement changé. Il percevait l'humiliation de Jésus probablement comme un moment de faire avorter le ministère terrestre de Dieu sur la terre, le plan sauveur de Dieu pour l'humanité, en l'amenant à pécher. On peut parler aussi, on peut citer les événements où Hérode a tué, par exemple, les enfants, qui était fort probablement alimenté par Satan durant la tentation dans le désert, par l'oppression constante et démoniaque, par l'orchestration de la mort de Jésus, même par les Juifs, comme on vient de lire. Et le ministère de Jésus fut un temps de défaite pour Satan. Satan voyait certainement probablement l'humanité et l'humiliation de Jésus, mais ça s'est retourné contre lui comme un moment de défaite. Un volontaire, sans qu'on lise tous les textes, là, un volontaire voudrait lire 1 Jean 3:8. Et là, j'ai beaucoup de textes, là, mais on lira pas tout. Quelqu'un veut lire 1 Jean 3:8? OK, Jacinthe. Un autre volontaire voudrait lire Matthieu 10, verset 1. OK, Richard. Tu peux y aller, Jacinthe. Alors, le Fils de Dieu a paru, il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, son ministère sur la terre a détruit les plans du diable qui étaient en train de s'installer. Et Matthieu 10, 1, j'oublie, c'est qui? Je pense que c'était Richard. On parlait que tantôt, les démons avaient peur de Jésus. Et Jésus a même communiqué ce pouvoir-là à ses disciples de chasser les démons. Le royaume de Dieu que Jésus est en train de venir établir est en train de prendre de l'expansion avec son autorité et l'autorité que Jésus va conférer même aux apôtres à ce moment-là pour chasser les démons et les éloigner. Alors la sphère d'activité durant le ministère de Jésus la sphère d'activité de Satan durant le ministère de Jésus est vraiment en rétrécissant à cause de l'autorité que Jésus est en train d'établir. Et Matthieu 8, je vais vous lire Matthieu 8, versets 28 à 33. Lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? » Ils savaient l'identifier, hein? André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy. Excusez, j'ai passé 2 pages. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus, mon histoire. J'ai tourné 2 pages à la fois, excusez-moi. C'est ça, alors je suis rendu au verset fin du verset 29. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Excusez-moi. Je vais reprendre mon souffle. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans les villes raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. C'est l'autorité qu'on est en train de parler, que Jésus est en train de chasser ces démons qui sont tellement puissants que personne n'ose passer par là. Puis Jésus ne fait pas de détour, il passe par là, il va les chasser. Alors, la sphère d'activité de Satan est vraiment en train de diminuer pendant le ministère de Jésus. Et puis, tournez avec moi, j'ai deux autres textes en ce qui concerne le ministère, pendant le ministère de Jésus. Colossiens 2, Justin l'a cité ce matin, Colossiens 2, versets 13 à 15, un volontaire que vous voudrez lire? Colossiens 2, Priscilla, et un autre volontaire que vous voudrez lire, Jean 12, 31? OK, Richard. Colossiens 2, versets 12 à 15, s'il te plaît, Priscilla. OK, juste un instant. C'est quoi la victoire que Dieu est allé chercher comparativement à la puissance que Satan avait à ce moment-là? Comprenez-vous ma question? Il y a une guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre entre Dieu et Satan. Qu'est-ce que Dieu vient d'aller chercher dans cette guerre qui lui est chère? La victoire sur la mort. Le salut de nos âmes, notre personne, notre propre vie. L'enjeu de toute cette guerre-là, entre autres, oui, Satan est le trône de Dieu qu'il veut, mais le moyen d'action que Satan utilise pour amoindrir ou éloigner l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu, mais c'est en nous éloignant de lui. Et Jésus, ce qu'il a fait, bien, en étant mort, en étant ressuscité, nous donne l'occasion à nous aussi de mourir en lui et d'être ressuscité et d'avoir la vie, d'avoir la victoire sur la mort et de nous communiquer la vie. Ce que Satan voulait, c'est nous garder dans la mort, nous garder finalement séparés de Dieu. Puis ce que Dieu veut, c'est qu'on soit près de lui finalement. Et tu peux continuer, s'il te plaît, le verset 14 et 15. Et je vais vous poser la question, quelle est l'œuvre de Dieu? Et l'action aussi posée envers Satan. OK, ça veut dire quoi ça? On est du bon côté? Ouais. C'était-tu une victoire voilée? C'est une petite victoire. Tu sais, c'est, oh, on a gagné un petit peu, mais faut pas trop sortir les trompettes. C'est un triomphe. Un triomphe éclatant. Et comment? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça nous a donné à nous, ça? Verset 14. Il n'y a plus personne au ciel pour nous accuser. Quelle accusation maintenant que je peux porter au ciel contre Serge Lagacé, ou contre Bertrand, ou contre peu importe quel est l'enfant de Dieu. Quelle accusation maintenant est-ce qu'on peut porter contre vous? Il n'y en a plus d'accusation qu'on peut porter. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a été effacé. Et comment est-ce que ça a été fait? Et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alors, en triomphant d'elle, verset 15, ce que ça dit à la fin, en triomphant d'elle par la croix. Alors, un moment clé, et vous serez d'accord avec moi, on ne s'assinera pas longtemps là-dessus, un moment clé de l'histoire et du plan de Dieu, c'est la croix. Et la croix a désarmé et a anéanti, si je peux dire, la puissance de Satan. Parce que maintenant, il ne peut plus accuser les enfants de Dieu. Il ne peut plus nous éloigner, nous empêcher d'avoir cette relation-là avec Dieu. Parce que non seulement il est désarmé, mais en plus, il a été humilié. Il a été battu. Il a été terrassé. Et il y a encore, évidemment, un accomplissement qui est encore à venir sur ça. Mais quand même, regardez verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire quoi, ça? Plus d'autorité. Il a déchiré leur linge glorieux qu'ils pouvaient avoir sur eux de ce qui les trônait en tant que domination, qu'autorité. Et ils sont humiliés et les a livrés publiquement en spectacle. Je me souviens, René a prêché là-dessus pas longtemps avant un de ses derniers messages, puis il expliquait justement comment est-ce que au temps qu'il y avait une guerre et qu'un peuple gagnait, qu'il prenait par exemple le roi et puis les autorités, puis les traînait dans le milieu de la ville et en les humiliant pour montrer comment est-ce qu'il a gagné victorieusement sur l'autre peuple. C'est exactement l'idée qui est donnée où finalement Dieu a livré publiquement en spectacle les autorités, finalement tout le royaume des ténèbres qui appartenait à Satan. Alors, un triomphe. Et ça, c'est au moment de la croix. Est-ce que j'avais demandé quelqu'un pour lire Jean 12, 31? OK, Richard? Ouais. Le prince de ce monde est déjà jugé, que Jésus disait. Et il est jeté dehors. Maintenant, l'accès que Satan a au ciel comme accusateur pour dire hey, j'ai remarqué ton serviteur David, et puis là, ouais, Laura, t'as-tu remarqué ça? Non, il n'y a plus de place pour Satan pour faire ça. Et il est jeté dehors. Jésus disait, je l'ai vu comme un Hitler qui descendait, il est parti. Alors, Satan n'a plus, dans sa sphère d'activité, accès auprès de Dieu pour nous accuser. Alors, l'étau se resserre encore plus, et la sphère d'activité, il n'a plus accès au ciel, et maintenant, il a accès uniquement à un monde spirituel très limité qui est autour de la terre et qui est tout près de nous aussi. Et l'étau se resserre près de notre terre, là. Et en 5 minutes, pour terminer jusqu'où l'étau se resserre, là, pour la sphère d'activité, en ce qui concerne notre période, on vient de parler du ministère de Jésus, mais pendant l'Église, dans notre période actuelle, quelle est l'activité de Satan? Est-ce qu'on est confronté à lutter contre Satan, à votre avis? Tu t'es convaincu, Jacinthe? Oui. Oui, on a lutté contre Satan. Est-ce que j'ai à lutter contre Satan à tous les jours? Satan n'est pas omniprésent. Il est souvent là. Ouais. Alors, il faut nuancer tout ce qu'on dit parce que je suis d'accord avec tout ce qui est dit jusqu'à présent. Mais Satan, effectivement, si on prend l'étude des anges, il n'y a aucun ange qui est omniprésent. Alors, Satan, il ne peut pas être à côté de moi, puis en même temps à côté de Danny Asselin. Ah, je préfère qu'il y ait ailleurs. Mais Satan n'est pas omniprésent. Alors, le royaume et l'influence satanique et de son royaume des anges, lui, il est omniprésent. Là. On baigne dedans. Là. C'est le monde là, dans lequel on est. Et ça, c'est le royaume de Satan qui est sur la terre. D'une façon spirituelle, on appartient aussi au royaume de Christ. Mais sur la terre, on est dans une influence satanique continuellement. Et cette organisation-là est faite par Satan et ses anges. Et c'est une bonne organisation. Comprenez ce que je veux dire, là, une bonne, c'est-à-dire qu'il est bien coordonné. C'est une bonne entreprise, ce qu'il a mis sur pied, dans le sens qu'elle fonctionne bien pour le mal. Mais alors, elle est très influente sur notre monde, sur nos gouvernements, sur nos pays. Dieu nous demande, on citait ça dimanche dernier, Dieu nous demande de prier pour nos gouvernements afin qu'on vive en paix. Mais c'est certain que Dieu veut agir auprès de nos gouvernements. Mais Satan et ses anges sont très influents sur nos gouvernements aussi et sur nos politiciens et sur tous les gens qui sont en autorité près de nous, dans un sens. Alors, pendant la période de l'Église, on est confronté, on a vu dans les bergeries, pour ceux qui sont là avec nous, là, dans les versets d'Éphésiens 6. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais on a à lutter contre les démons. Et Dieu nous donne toutes les armes pour qu'on soit capable de lutter contre le démon qui nous attaque. Tournez avec moi dans 1 Pierre 5, s'il vous plaît. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Je disais, pour ceux qui étaient dans la bergerie à Sainte-Foy avec moi mercredi dernier, tu citais tantôt Pierre qui disait à Jésus, « Non, Jésus, il y a peut-être un autre moyen de faire ça sans que tu passes par là. » Puis là, Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Et Jésus a dit à Pierre, elle dit, « Satan va te cribler. Ce soir, j'ai prié pour toi. » Puis quand Jésus, dans le jardin de Gethsémané, Pierre, au lieu de prier, selon la recommandation de Jésus, bien, il fait dodo. Parce qu'il est trop fatigué, il ne veille pas, il trouve peut-être plus ou moins pertinent ce que Jésus vient de dire, puis il retombe dans l'assoupissement à trois reprises. Et Pierre, on connaît la suite des choses, hein, ce qui s'est passé. Et puis, à un point de découragement, même après renier Christ trois fois, ben il a fallu qu'il y ait un entretien seul à seul avec Jésus. Hein. Jésus, il disait, « Pierre, tu m'aimes-tu? » Et puis, « Tu m'aimes-tu vraiment? Là, t'es-tu? Il est où ton cœur là-dedans? » Et puis, heureusement, on voit par la suite dans les actes que Pierre a repris du poil de la bête dans sa foi et dans son attachement au Maître. Et là, on arrive dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez. » Jésus y avait dit ça dans le jardin. « Veille avec moi, Pierre! » Mais il veillait pas. Mais il a compris qu'est-ce que ça lui avait coûté, par exemple, de pas veiller. Et l'avertissement de Pierre, pour moi, elle a encore plus de sens et encore plus de poids du fait qu'on a l'expérience d'un homme qui n'a pas veillé, que ça lui a coûté cher, mais qui a été relevé et qui nous donne cette même recommandation-là. « Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il a été criblé. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ça, c'est l'œuvre, la sphère d'activité de Satan pendant la période de l'Église. Elle est encore tout près de nous. Et je vais terminer avec ça, parce qu'il reste les tribulations et l'enfer, là, où je ferai un court résumé sur la sphère d'activité en ce qui concerne les tribulations et l'enfer. Mais tantôt, je disais que la sphère d'activité de Satan est vraiment en train de se resserrer. Et plus ça se resserre, plus Satan est alimenté par le mal et le désir de vaincre, parce qu'il réalise bien qu'il perd du terrain. Et on est présentement dans la période de l'Église où Satan a eu un coup dur avec la croix. Et là, il sent que la soupe est chaude, il sent que la fin est proche. Et nous, on est dans cette période-là. Et les chrétiens, bien qu'on appartienne à Christ, et bien que Satan ne viendra jamais nous enlever de la main du Père, bien, il peut quand même nous affecter, il peut quand même nuire à notre marche, nuire à notre fidélité. Il peut quand même avoir, à travers son influence, à travers comme tentateur, comme menteur, bien, venir déranger notre marche avec lui. Et ça, c'est présentement. Et on viendra en ce qui concerne les tribulations et puis l'enfer, mais il y a des choses à dire importantes en ce qui concerne Satan dans ce moment-là. On arrête là pour l'instant. Questions, commentaires? Oui, Michel. Ben, je pourrais employer l'expression tenter. En fait, c'est Pierre qui disait ça à Jésus. Tu pourrais prendre un détour. Où il ne comprenait pas tout le. C'est ça. C'est ça. Dans le cas de Pierre, en tout cas, du moins, je pense que sans que, comme on disait tantôt, est-ce que Satan avait tout compris? Du moins, les paroles de Pierre reflètent les intentions ou l'esprit de Satan, qui est de continuellement faire contraire à ce que Dieu veut. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'il adressait ces paroles-là comme ça à Pierre, sans que ça soit directement Satan qui est devant lui, là, sous la forme de Pierre, là. C'est pas ça. Mais je pense que ce que Pierre est en train de dire reflète ce que Satan est, qui est toujours d'avoir une opinion contraire à Dieu, puis de faire un détournement de plan. Mais je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour Dieu, pour Jésus, finalement, on pourrait employer ça encore une tentation, dans le sens que c'est encore une occasion qu'il y a de vouloir détourner le plan de Dieu. Mais je lance pas la question, c'est quoi pour Jésus une tentation, là? C'est quoi réellement une tentation pour Jésus, là? Mais je pense que c'est quelque chose, si on définit ça simplement, c'est quelque chose auquel Jésus était confronté puis qu'il devait répondre selon la vérité, selon le plan de Dieu. Mais je crois qu'il le faisait avec facilité parce qu'il aimait son Père puis parce qu'il aimait la vérité aussi. D'autres questions, commentaires? Ça, c'est pas un enfant sevré, hein? Il crie après sa mère. OK, on arrête là pour ce soir. Je ne sais pas si j'ai bombardé plein d'informations. Je crois, j'espère et je prie que ça soit édifiant, pas seulement pour notre connaissance, mais pour notre relation nous-mêmes avec Dieu. Approchez-vous de Dieu, résistez au diable, que Jacques il nous dit. C'est comme ça qu'on résiste à Dieu. Il faut s'approcher, pas à Dieu, excusez. C'est comme ça qu'on résiste au diable, c'est en s'approchant de Dieu et ce que Dieu nous demande. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, t'adorer. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui a livré en spectacle ses démons, Seigneur, avec Satan. Tu es le seul qui pouvait le faire. Tu es le seul qui a pu penser à ce plan merveilleux qu'en mourant à la croix, tu nous gagnais, tu nous donnais ta vie et tu anéantissais aussi l'ennemi, Satan. Seigneur, on veut te louer pour ta sagesse. On veut te louer pour ton intelligence, pour ton plan parfait. On veut te remercier, te rendre grâce, Seigneur, infiniment, que tu t'es jamais détourné de ce plan-là, que tu es allé jusqu'au bout. Et merci, Dieu, parce que tu nous donnes une pleine victoire en toi. Et qu'en s'attachant à toi, on est convaincu, Dieu, que notre ennemi te fuit et qu'on est en sécurité dans ta main. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.